Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute du 260e numéro de Mélomanie, votre magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Les vacances scolaires d'hiver ont commencé samedi et comme c'est souvent le cas lors de ces périodes, on constate une certaine baisse d'activité sur le front des événements musicaux. La plupart des saisons de concerts faisant une pause à ce moment-là, ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne se passe plus rien dans les salles de notre région, loin s'en faut. Il y a encore matière à nourrir le sommaire de cette émission où je retrouve une nouvelle fois à mes côtés mon ami Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Nous avons également le plaisir d'avoir une invitée d'honneur aujourd'hui, la jeune mezzo-soprano toulousaine Juliette May, à 2 semaines de la cérémonie des Victoires de la Musique Classique 2024. Elle a lieu jeudi 29 février à Montpellier et Juliette May fait partie des 3 finalistes dans la catégorie Révélation artiste lyrique de l'année, une nomination sur laquelle nous allons revenir avec elle en seconde partie d'émission. Dans les médias, petit regard sur l'actualité musicale récente, c'est parti pour notre rubrique Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Bienvenue à vous aussi, Serge. Heureux d'animer encore une fois cette émission avec vous.
Mais très heureux moi aussi.
Ce retour arrière va être court cette semaine et même très court. Il serait dû en fait au seul concert des percussions de l'Orchestre National du Capitole samedi dernier à la Halle aux Grains. C'était un rendez-vous du cycle Happy Hour et vous étiez présent dans la salle, Serge, pour ce début de soirée, parce que c'est à 18h, qui a eu beaucoup de succès puisque je crois savoir que la halle était quasi pleine à cette occasion.
Absolument. Non seulement la halle était pleine, mais ces happy hours qui d'habitude durent 1 heure, comme son nom l'indique, eh bien là, cette happy hour a duré quasiment 2 heures, puisqu'il s'agissait de célébrer la grande famille des percussions. Alors, les happy hours, on connaît ces concerts hein, qui ont chacun un thème particulier, qui motive le choix des œuvres, évidemment. Quelquefois, il suffit d'une seule grande œuvre symphonique. Parfois, c'est un compositeur important. D'autres fois, une famille spécifique d'instruments. Il y a eu récemment un happy hour sur les cuivres, plus récemment encore sur le hautbois, donc un instrument unique. Et là, c'était vraiment la grande famille des percussions. Alors, évidemment, il y a du monde parmi les percussions. Hein. Grosse caisse, caisse claire, cymbale, castagnette, triangle, glockenspiel, xylophone, timbale, vibraphone, marimba, batterie, etc. Excusez-moi pour cette numérotation.
Ça me fait penser à la réserve, le local où les musiciens, les percussionnistes de l'Orchestre National du Capitole rangent leur matériel. Il paraît que ça ressemble vraiment à la caverne d'Ali Baba. Hein.
Ah non, mais c'est incroyable. D'autant plus que cette fin d'après-midi-là, quand on entre dans la halle, le plateau de la halle aux grains est rempli d'instruments. Enfin, c'est phénoménal. J'ai jamais vu autant de monde. Ça fait aussi dense que quand il y a un orchestre complet.
Ouais, oui.
Ah, c'est incroyable.
C'est un véritable petit cabinet de curiosité.
Oui. Ah oui, il y a tout, y compris des instruments auxquels on ne pense pas toujours, hein, comme le fouet, l'enclume, les cloches, etc. Donc, c'était...
Cette espèce de, comment dire, de tôle, je ne sais pas quoi, là, qui fait le bruit du vent.
Même le bruit du tonnerre.
Ou le bruit du tonnerre, éventuellement.
Oui,
le bruit du tonnerre, plutôt, vous avez raison.
Oui, donc, il s'agissait d'un événement qui était plus qu'un concert, c'était vraiment un spectacle. Parce qu'en plus, il y avait un raffinement des éclairages, des lumières, adaptées à chaque œuvre jouée, et même qui se modifiait pendant l'œuvre en fonction du moment de cette œuvre-là. J'avoue que j'ai été complètement sidéré par la qualité de cette prestation. Il y avait 16 musiciens. Mais parmi ces 16 musiciens, il y avait les 6 titulaires de l'Orchestre National du Capitole, que l'on connaît bien, hein, Jean-Sébastien Borsarello, Milien Prodhomme, Thibaut Buchaillet, Louis Le Breton, Jasper Mertens, Christophe Devarumez. Et il fallait encore ajouter un contrebassiste qui était là, non pas avec sa contrebasse, il s'agissait de Florent Barnot, mais qui jouait de la basse, tout simplement, le seul instrument qui n'était pas un instrument de percussion, hein, puisque donc c'était une guitare électrique, en quelque sorte. Donc, qui se rajoutait aux autres instruments. Et alors, à ces 6 titulaires, se rajoutaient une dizaine d'autres musiciens venant soit de l'ISDAT, hein, élève de l'ISDAT, soit d'autres institutions, les amis en quelque sorte, les copains des titulaires de l'Orchestre du Capitole. Et alors un tel effectif, lorsqu'ils se mettent tous à jouer, évidemment nécessitait une direction. Parce que 16 musiciens qui jouent, bon, quelquefois dans les musiques de chambre, on peut se passer d'une direction. Mais là, vraiment, il fallait une direction précise. Et cette direction était assurée par Aurélien Adignac, qui est professeur au CRD de Pro et qui est membre fondateur de l'académie qui s'appelle Percussud, d'ailleurs. Une académie évidemment consacrée aux percussions. Et c'est un percussionniste que l'on voit aussi assez souvent comme supplémentaire au sein de l'Orchestre National du Capitole. Alors, ce rôle de chef d'orchestre, il était absolument nécessaire pour la première et la dernière pièce qui étaient toutes les deux confiées à l'effectif complet. Alors là, c'était impressionnant, hein, puisque l'ouverture... C'était pas moins que la suite numéro 2 du ballet Daphnis et Chloé de Maurice Ravel. Alors dans un arrangement d'un grand percussionniste qui s'appelle Pierre-Olivier Schmitt et qui, je dois dire, a fait là un travail stupéfiant. Vraiment, on a écouté les nuances de cette pièce hyper connue, très souvent jouée par l'Orchestre du Capitole.
Et magnifique, et magnifique.
Et splendide, hein, qui va du lever du jour à la bacchanale, avec des nuances d'une finesse extraordinaire, au point que quand on est habitué à la version originale de Ravel, on avait l'impression qu'on entendait tous les instruments, les cordes, les bois, y compris les chœurs d'ailleurs. On avait l'impression d'entendre le chœur.
D'autant plus que le chœur de Daphnis et Chloé, au départ, c'est bouche fermée.
Ah, bouche fermée, oui, oui, ah, oui, oui, tout le chœur. Hein,
alors, toute on la... peut effectivement, je pense, oui, oui, reproduire ça à peu de choses près, oui, avec oui, des oui, percussions, avec tout l'éventail des percussions.
Voilà, alors donc, on a pu assister à des couleurs déployées qui ne font en rien regretter l'original. Pourtant, Dieu sait si l'original est une chose extraordinaire qui illustre l'immense talent d'orchestrateur de Maurice Ravel, bien sûr. Mais là, vraiment...
Mais la musique de Ravel se prête bien à l'arrangement oui, oui. De, oui, oui, pour oui. percussion.
Ben, le fameux L'Aideronnette, oui. Impératrice des pagodes, qui est souvent joué par des percussionnistes. Puisque ce qui se dégageait de cette prestation, c'était l'émotion. Il y avait vraiment une émotion à donner le frisson, vraiment, à la fin. Hein, vraiment, l'explosion finale, là, ça a été une ovation, comme on peut l'imaginer, de manière incroyable. Alors, à la suite de cette transcription, donc, eh bien, c'était une série de courtes pièces qui sont, elles, originalement composées pour un effectif plus réduit de percussionnistes, évidemment. Et alors, c'était vraiment une panoplie de musiciens, de compositeurs, que j'avoue, je ne connaissais pas, sauf Philippe Glass, évidemment, qui, lui, bon, est connu. Mais il y avait d'abord une pièce de Jason Troitin, qui s'appelle Extremes, donc un Américain, un compositeur américain. Cette pièce est censée évoquer six villes des États-Unis avec une pulsation du tambour extraordinaire. Et puis ensuite venait donc la pièce de Philip Glass qui s'appelle Yapura River. Yapura River, c'est un affluent de l'Amazon,
oui.
Un des plus longs d'ailleurs,
oui.
De l'Amazon. Et donc... on retrouvait le style de Phil Glass, hein, avec à la fois ce minimalisme et puis le mouvement répétitif de Phil Glass. Très beau, très poétique. La pièce suivante était nettement plus jazzy et c'était une pièce intitulée Kyoto du néo-zélandais John Psatas et qui confie le rôle essentiel au marimba et au vibraphone. Ensuite, c'était une pièce du New-Yorkais Elliot Cole. Dans sa création, ça s'appelait Postlude pour Bowed Vibraphone. Alors, c'est quatre musiciens qui sont réunis autour d'un seul vibraphone et qui est activé par des archets de contrebasse. Donc, ça ne donne pas l'impression d'être des percussions. C'est vraiment très, très soyeux, très, très pur, très beau son qui se combine magnifiquement. Donc, une belle évocation que c'était là. Et puis, alors, une autre pièce qui suivait. Alors, ça, c'était incroyable. Une pièce qui s'appelle Silence Must Be. Donc ça doit être silencieux. Et c'était du compositeur et cinéaste belge qui s'appelle Thierry Demey, que j'avoue je ne connaissais pas. Et c'est à la fois une musique du silence et une musique de théâtre. Alors cette pièce, elle ressemble en fait, elle a eu un succès fou, à un concerto pour chef d'orchestre. Tout bonnement parce qu'elle débute par un exercice de mime du chef d'orchestre, sans la moindre musique au début, rien, dans le plus grand silence de la halle. D'ailleurs, les gens étaient tellement ahuris qu'il n'y avait même pas de tout, donc c'était phénoménal. Un ballet mystérieux du chef, donc chaque geste d'abord est silencieux, et puis il finit par impulser l'intervention de deux groupes de percussions, qui était placé en hauteur d'ailleurs. Alors c'était vraiment un spectacle étonnant, exécuté avec une précision, parce que ça demande une précision incroyable à partir du moment où il y a des percussions, et donc vraiment impressionnant. Et ça, c'était la dernière des courtes pièces originalement écrites pour les percussions. Et puis, pour terminer, il y a eu par l'ensemble des musiciens une pièce du compositeur mexicain Arturo Márquez qui s'appelle Danzón numéro 2. Alors c'est une pièce qu'on entend de temps en temps.
Oui, hein. Notamment par des brass bands ou des
orchestres. Oui, oui,
orchestres
mais c'est écrit pour orchestre symphonique. Hein. Alors c'est une pièce qui puise un peu son inspiration dans le danzón, cette danse populaire qui irrigue un peu les rythmes et la musique du Mexique. Hein. Donc, c'est une pièce très colorée, très belle. Là, c'était parfaitement adapté, évidemment, avec un final véritablement explosif qui a suscité une ovation du public. Mais vraiment, le public était tétanisé à la suite de ça. Et donc, il y a eu un bis signé d'un guitariste américain de jazz, Pat Metheny.
Ah, Pat Metheny, oui, oui.
Et qui est intitulé « Minuano ».
Oui.
Voilà le nom de cette pièce, tout à fait réjouissante. Alors, je voudrais quand même préciser que tout au long du concert, on a eu droit à des explications, à des commentaires, à des présentations d'un des grands percussionnistes de l'orchestre, qui est Christophe de Warhumez, donc qui a même fondé son propre ensemble de percussions, Trilogistique, hein, qui est animé par des percussionnistes de l'orchestre. Donc. Et là, il a présenté de manière à la fois complète, humoristique et très intelligemment faite, l'ensemble du programme. Vraiment un concert exceptionnel, je devrais dire un spectacle musical exceptionnel qui a réjoui l'ensemble du public.
Comme c'est souvent le cas lorsqu'il s'agit de concerts de percussions. Parce
oui,
comme vous le disiez,
oui.
C'est une famille à part quand même, dans les orchestres et même dans le monde de la musique de manière générale. Oui. Eh bien, j'ai un extrait de Yapura River de Philip Glass à vous faire écouter dans sa version originale pour percussion et flûte de Pan. Nul ne s'étonnera de trouver la flûte de Pan dans une œuvre qui évoque un fleuve de l'Amazone, oui. En tout cas un affluent de l'Amazone. Vous allez constater qu'on y reconnaît bien l'univers du compositeur minimaliste américain. Yapura River, pièce composée par Philip Glass, ici dans sa version originale pour percussion et flûte de Pan, une œuvre qui était donc au programme du concert Happy Hour donné par les percussions de l'orchestre du Capitole samedi dernier à la Halograin Prochain concert de l'ensemble symphonique toulousain au grand complet cette fois-ci, jeudi prochain le 15 février à 20h. Nous allons vous le présenter un peu plus tard en seconde partie de cette émission. Petite virgule musicale dans l'immédiat. Et l'on revient à l'antenne avec Serge Chosy et avec Juliette May pour la rubrique Agenda de ce numéro. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. A tout de suite.
Mélomanie. L'agenda.
Je suis toujours en compagnie de Serge Chosy pour l'agenda de Mélomanie, mais nous allons donc commencer cette rubrique avec la jeune mezzo-soprano Juliette May. Nous l'avions déjà interviewée dans cette émission il y a 3 mois, alors qu'elle s'apprêtait à donner un concert à Toulouse avec l'ensemble Nota Bene. Nous avons appris peu après qu'elle était nommée dans la catégorie Révélation artiste lyrique aux prochaines victoires de la musique classique. La cérémonie de remise des récompenses a lieu le jeudi 29 février et elle est télévisée comme chaque année sur France 3. À 2 semaines de l'événement, j'ai voulu remettre en lumière cette chanteuse de très grand talent, pur produit de la formation musicale toulousaine. Écoutez-la nous parler de ses années d'études au Conservatoire de Toulouse, puis à celui de Paris, du concours Reine-Élisabeth et de son début de carrière plus que prometteur, comme en témoigne justement sa nomination aux Victoires de la musique classique. Bonjour Juliette May, merci de consacrer un peu de votre précieux temps à Mélomanie alors que vous commencez les répétitions pour une nouvelle production à laquelle vous participez en ce moment. Vous êtes donc nommée dans la catégorie Révélation artiste lyrique aux prochaines victoires de la musique classique, une cérémonie sur laquelle nous allons revenir avec vous au cours de cet entretien. Auparavant, on va être un peu chauvin et évoquer d'abord la formation musicale que vous avez reçue à Toulouse, la ville qui vous a vu naître. Votre premier instrument a été le violoncelle, mais c'est au sein de la maîtrise de Toulouse que vous avez découvert votre voix sous la direction de Marc Hopstadt. Est-ce que vos années à la maîtrise ont vraiment été décisives pour la suite ?
Bonjour Eric, merci de me recevoir. Alors oui, effectivement, c'est grâce à la maîtrise que j'ai découvert le chant, que j'ai découvert aussi la scène, parce qu'on faisait une quinzaine de concerts par an, ce qui est énorme à l'âge que j'avais, entre 11 ans et 15 ans. Ça m'a ouvert beaucoup de portes musicalement et humainement. J'ai appris énormément dans les deux plans. Je trouve que c'est une expérience musicale très riche pour des jeunes enfants de cet âge-là.
Et d'autant plus que vous êtes resté pendant des années.
Oui, environ 7 ans, il me semble.
Ensuite, donc, vous avez suivi les cours en classe de voix au Conservatoire à rayonnement régional de Toulouse. Il y a une personnalité qui était très importante, je pense, pour vous, c'est Léa Pascal.
Oui, bien sûr, c'est ma professeure. C'est grâce à elle que j'ai commencé le chant lyrique et que j'ai ensuite envisagé d'en faire professionnellement. Elle m'a vraiment ouvert toutes les portes techniquement et musicalement du chant. Et elle me suit évidemment encore aujourd'hui.
Ouais, ça reste quelqu'un auprès de qui vous vous confiez artistiquement parlant, bien sûr, mais peut-être pas seulement d'ailleurs, peut-être même humainement et notamment dans le cours que suit votre carrière aujourd'hui.
Ah oui, bien sûr, elle est d'excellents conseils et je prends toujours conseil auprès d'elle quand on me propose un rôle, quand je ne sais pas si ce rôle sera abordable tout de suite ou pas, s'il faut que j'attende et donc je prends mes décisions de concert avec elle.
Dans la formation que vous avez suivie au Conservatoire à rayonnement régional de Toulouse, il y a eu un autre aspect essentiel, c'est que vous avez intégré à un moment donné le pôle des arts baroques pour un cursus de 3 ans consacré à la musique française, anglaise, allemande et italienne de cette période. Et je crois que vous continuez à nourrir une véritable passion pour la musique baroque.
Alors oui, bien sûr, la musique baroque a toujours été importante pour moi parce que mes parents en écoutent beaucoup, mon père en a même chanté assez souvent. Donc j'ai toujours eu cette sensibilité pour le baroque, c'est je pense la première musique que j'ai écoutée. Je suis entrée au pôle baroque à Toulouse, donc j'ai fait mes premiers pas en baroque à cette occasion. Et aujourd'hui, je compte commencer ma carrière avec le baroque, et c'est déjà le cas, puisque je chante en ce moment, je fais une tournée internationale avec les Arts Florissants dans le cadre du Jardin des Voix. Donc nous jouons un spectacle autour de Fairy Queen de Purcell. Il y a 2 semaines, j'enregistrais, je faisais des concerts avec les Épopées. Donc nous jouions Alceste de Lully. Et j'ai beaucoup de projets baroques à venir qui me réjouissent tous.
Alors on va sans doute en reparler. Après Toulouse, vous êtes passé par le Conservatoire de Montpellier. Actuellement, vous êtes élève au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Quels sont les professeurs que vous avez aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, je travaille avec Yann Toussaint pour les cours de chant. Je fais de l'art de la scène avec Emmanuel Gordoliani.
Je reviens à une question que se posent peut-être aussi nos auditeurs, surtout lorsqu'il s'agit d'une encore très jeune chanteuse comme vous. Qu'est-ce que vous travaillez le plus aujourd'hui ? Qu'est-ce qui manque encore à la chanteuse que vous êtes et que vous souhaitez devenir ?
Alors, ce que je travaille le plus, en plus des rôles, mais disons techniquement, j'ai toujours des choses à améliorer dans ma voix, évidemment. Et puis, ce qui me manque, c'est la maturité de mon instrument, parce que je suis encore une jeune chanteuse. Maintenant, d'un point de vue artistique, ce qui me manque, c'est l'expérience de la scène, d'enrichir mes connaissances, d'enrichir ma pratique professionnelle, en fait, je pense. Bien sûr, il y a aussi des choses techniques, mais ça, c'est un travail de toute une vie. Mais voilà, je dirais l'expérience du métier.
Alors vous avez été membre de la promotion 2022 de Génération Opéra, lauréate de l'Académie du Festival d'Aix-en-Provence et lauréate de la 11e Académie du Jardin des Voix des Arts Florissants de William Christie que vous avez évoqué il y a quelques minutes. Et puis, l'an dernier, il y a eu le concours Reine Elisabeth, en Belgique bien sûr. Vous avez été finaliste, vous avez eu le 6e prix. Ça a été un moment très important dans votre jeune carrière.
Alors oui, c'était un moment extrêmement fort en émotion, autant en stress, vraiment, c'était très intense. La préparation était intense, le concours était intense. Mais alors cette finale, c'est un merveilleux souvenir pour moi. Chanter avec l'orchestre de la Monnaie, c'était incroyable. C'est un orchestre vraiment épatant. Je me suis sentie portée et j'avais aucun stress. Je pense en grande partie grâce à Alain Altinoglu qui dirigeait, parce qu'il a installé vraiment une atmosphère très propice à la musique et très rassurante pour des candidats en finale. C'est assez rare et c'était vraiment très confortable et j'ai passé un très bon moment.
Est-ce que ça vous a fait passer un cap en termes de confiance en vous? Est-ce que vous avez plus confiance en vous depuis ce concours où vous avez eu le 6e prix?
Alors, en confiance, je dirais non, mais ça m'a apporté de la sérénité face aux performances, je pense. Mais c'est pas de la confiance. Enfin, oui, peut-être en quelque sorte. Mais disons que voilà, c'est de l'expérience. J'ai un autre regard, un regard un peu différent sur les performances et puis l'expérience aussi de beaucoup d'autres choses. Aujourd'hui, depuis les 5 derniers mois, j'ai beaucoup grandi grâce aux arts florissants, grâce à ce concours, parce que maintenant, je me sens beaucoup plus chez moi sur scène, en fait.
Oui, effectivement, donc je pense que cette sérénité apporte évidemment aussi en termes de confiance en soi, en tout cas d'être peut-être plus détendu au moment de monter sur scène. Est-ce que vous êtes quelqu'un de plutôt traqueur? Est-ce que vous êtes plutôt traqueuse? Ou vous avez le juste trac qu'il faut pour se mettre un tout petit peu de pression sans que cette pression soit inhibante?
J'ai la chance, quand je rentre sur scène, d'être très calme. Par contre, juste avant de rentrer sur scène, la journée qui précède, c'est assez dévastateur,
oui.
Mais bon, on apprend à gérer ça, mais alors et puis la préparation aussi parfois peut être très stressante, mais c'est pas un trac de performance, c'est du stress de fond, de préparation, mais j'ai la chance, une fois que je suis sur scène, de gérer le trac assez bien, je trouve, disons que j'arrive à calmer tout ça et à penser à la musique.
Jeune chanteuse, donc, mais vous avez déjà eu l'occasion de vous produire non seulement dans des concours, mais aussi sur scène lors de productions. Quels sont les rôles que vous avez pu aborder jusqu'alors?
J'ai eu la grande chance de chanter Cenerentola, un rôle que j'apprécie particulièrement. C'était une version en français et adaptée pour jeune public. C'était un opéra participatif que nous avons donné au Théâtre des Champs-Élysées et à l'Opéra de Rouen. C'était vraiment une expérience géniale de faire chanter les enfants avec nous et de chanter d'ailleurs pour une salle pleine d'enfants. C'était assez incroyable. En termes de production, je suis encore à un tout début de carrière, donc j'ai pas encore chanté énormément.
Donc vous êtes déjà produite au Théâtre des Champs-Élysées, à l'Opéra de Rouen en ce moment, on va en parler dans quelques minutes, et donc à l'Opéra de Paris. Et bien je propose qu'on vous écoute une première fois dans cette émission, et comme vous adorez la musique baroque, c'est dans un air composé par Antonio Vivaldi, vous chantez Agitata da due venti, un extrait de l'opéra Griselda.
Agitata da due venti,
Agitata da due venti, air extrait de l'opéra Griselda d'Antonio Vivaldi, chanté par Juliette May, accompagnée ici par l'Orchestre Symphonique de la Monnaie à Bruxelles, dirigé par Alain Altinoglu. C'était justement pendant le dernier concours Reine-Elisabeth. Nous allons parler maintenant des prochaines victoires de la musique classique. Vous êtes donc nommé dans la catégorie Révélation artiste lyrique. Vous faites partie des trois finalistes avec la soprano Laurane Oliva et le ténor Léo Vermeau Desroches. Quelle importance vous accordez à cette cérémonie et à la récompense que vous pourriez y recevoir ?
Alors, cette cérémonie, pour moi, je pense que c'est l'occasion d'être entendue par un très large public, ce qui est une occasion extrêmement intéressante pour un jeune artiste, et j'espère vraiment donner envie aux auditeurs qui vont regarder l'émission de venir à l'opéra s'ils ne l'ont jamais fait, ou de revenir à l'opéra s'ils l'ont fait, et j'espère vraiment profiter de cette occasion pour apporter un peu de joie au public. Maintenant, la récompense, je pense que récompense ou non, ça ne change pas grand-chose. Je suis vraiment extrêmement honorée d'être nommée dans la catégorie Révélation artiste lyrique, en plus en étant aux côtés de Laurane et Léo, qui sont de merveilleux chanteurs également.
C'est une belle génération à laquelle vous appartenez, là.
Oui, je suis très heureuse.
On sait que ça peut ouvrir des portes, évidemment, d'avoir un prix, mais bon, les portes, vous les avez déjà ouvertes parce que vous avez été lauréate d'autres concours. Une chose sur laquelle je voulais revenir et que vous avez souligné, donc c'est un événement télévisé en prime time sur France Télévisions, jeudi 29 février, sur France 3 pour être précis, qui effectivement peut vous faire connaître tous ceux qui vont y participer à un public encore plus large que celui des salles d'opéra. Est-ce que rendre l'opéra accessible à tous, en faire un art accessible à tous, c'est quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur?
Oui, bien sûr, l'opéra, pour moi, c'est tellement merveilleux que j'aimerais que tout le monde y ait accès. Maintenant, je comprends qu'il soit difficile de passer la porte d'un opéra pour plein de raisons. Et j'aimerais vraiment, vraiment rencontrer du public qui n'a pas l'habitude d'assister à ça, faire découvrir aux gens, et j'aimerais que la musique en général, l'opéra apporte un peu de bonheur aux gens aujourd'hui.
En tout cas, je crois que vous serez la première Toulousaine, si vous êtes distinguée, à avoir une récompense dans la catégorie dite de l'art lyrique, que ce soit en révélation ou en soliste de l'année. Vous évoquiez les répétitions d'une nouvelle production à laquelle vous participez actuellement, c'est à l'Opéra de Rouen. De quoi s'agit-il ?
Alors, je viens de débuter une production de Tancrède de Rossini. Nous avons commencé les répétitions hier, donc c'est encore tout frais. Mais je pense que ça va être un très beau spectacle.
Vous allez assumer quel rôle ?
Je chante le rôle d'Isaura, qui est la suivante d'Aménaïde, le rôle de soprano.
Et c'est une première pour vous, c'est une prise de rôle ?
Tout à fait.
Les prochaines échéances pour vous, en 2024, peut-être même en 2025, parce que souvent tout ça est planifié très à l'avance, quelles sont les prochaines productions auxquelles vous allez participer et pour quel rôle ?
Alors, prochainement, je chanterai Amore e Valletto dans le couronnement de Poppée de Monteverdi à l'Opéra de Toulon. Ensuite, j'enregistrerai le rôle de Junon dans Platée de Rameau avec la chapelle harmonique. Et dans un futur plus lointain, j'aurai la chance de débuter dans Siebel, donc le rôle de Siebel dans l'opéra Faust de Gounod, à l'Opéra de Lille et à l'Opéra Comique.
Ça, c'est en 2024 ou c'est déjà pour certains en
2025.
C'est du 2025. Les rôles dont vous rêvez, que vous espérez pouvoir aborder dans les années à venir, est-ce qu'il y en a plusieurs ?
Oui, j'espère commencer à chanter du Mozart, parce que c'est un compositeur que j'aime énormément, que j'aime chanter. Donc évidemment, je pense à Chérubin et Dorabella, à Agno, tous ces rôles mozartiens et bien d'autres, parce que j'ai cité les opéras les plus connus, mais il y a tellement de beaux rôles chez Mozart. Et puis en général, les rôles de page qui me correspondent, je pense, très bien aujourd'hui, dans un futur proche, pour l'âge de ma voix et mon caractère aujourd'hui. Donc, Siebel qui va arriver, Urbain, Valletto, mais également des rôles dans la musique baroque. Mais alors là, j'en citerai pas tellement il y en a et que ces rôles me plaisent. Maintenant, le rôle qui me fait le plus rêver, je pense, c'est Cenerentola, mais je ne le chanterai pas tout de suite. Je préfère attendre un petit peu que ma voix prenne de la maturité.
Est-ce qu'on vous reverra bientôt à Toulouse ? Il y a quelques mois, vous vous êtes produite avec l'ensemble Nota Bene, dirigé par Delphine Armand. Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui pourraient arriver dans les quelques mois qui viennent, ou d'ici fin 2024, début 2025 ?
Alors, dans les mois qui viennent, ce n'est pas prévu, mais j'y pense, évidemment, puisque c'est ma ville et que j'adorerais y rechanter. Donc, c'est en projet.
On ne peut pas en parler pour l'instant, si je comprends bien.
Voilà.
Alors, je ne vais pas vous torturer plus longtemps. Merci beaucoup, Juliette May. On va vous souhaiter, bien sûr, bonne chance pour les victoires de la musique classique. Et on ne va pas se quitter sans vous écouter une nouvelle fois dans un air composé par Gioachino Rossini, un de vos compositeurs favoris, Naqui al Afano e al Pianto, extrait de son opéra, l'opéra dont vous rêvez, La Cenerentola. Naqui al Afano e al Pianto, air extrait de la Cenerentola, l'opéra de Rossini, chanté par Juliette May, la jeune mezzo-soprano toulousaine, est donc l'une des trois finalistes de la catégorie Révélation artiste lyrique des prochaines victoires de la musique classique. La cérémonie a lieu, je le rappelle, le 29 février à Montpellier et elle est retransmise en direct sur France 3. Serge, un mot sur Juliette May que vous avez déjà entendu en concert. Ah oui. C'est déjà vraiment une grande chanteuse, sans doute à l'aube d'une très belle carrière.
Absolument, vraiment. Elle a des qualités incroyables, une virtuosité vocale stupéfiante. Son chant n'est jamais mécanique, c'est toujours inspiré, expressif. Elle a un timbre d'une clarté, d'une beauté formidable. En plus, c'est une personne adorable, une personne formidable. Vraiment.
On l'a vu pendant l'interview.
Ah oui, non, mais vraiment, elle mérite largement d'être sacrée révélation lyrique de l'année.
En tout cas, je l'espère, et encore une fois, je le répète, je le crois très fort. Je pense que ça pourrait être la première Toulousaine sacrée dans cette catégorie, parce que je ne crois pas que nous ayons eu jusqu'alors d'anciens du Conservatoire de Toulouse à avoir été récompensés par les victoires de la musique classique dans la catégorie lyrique.
Oui, et puis tout ce que l'on dit là, c'est sans chauvinisme aucun, c'est indépendamment de tout lien...
Elle est demandée aujourd'hui un peu partout, dans les salles françaises, les salles d'opéra françaises.
C'est vraiment
Voilà, ce qu'on dit, effectivement, n'a rien d'excessif. Et je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler d'elle. Maintenant, on espère la voir très rapidement à l'Opéra National du Capitole.
Ah, oui, oui, oui.
Et je pense que ça pourrait se faire dans les 2-3 années qui viennent. Nous quittons bien le domaine lyrique pour la musique symphonique avec le prochain concert de l'Orchestre National du Capitole que nous avons annoncé en début d'émission. Le prochain, donc, lieu le jeudi 15 février à 20h à la Lograin. Une soirée avec un chef et un soliste invité, ainsi que 3 œuvres au programme. Mm-hmm. Serge va se charger de tous nous les présenter. D'abord, le chef et le soliste. Qui sont-ils?
Voilà, alors, le chef, il est tchèque, il s'appelle Petr Popelka et il dirigera pour la première fois l'Orchestre National du Capitole. Par contre, le violoncelliste norvégien Truls Mørk, lui, il est de retour à la Lograin après une longue absence.
Oui, puisque il y a longtemps tout de même.
En décembre 2007.
Oui, en effet.
Hein, il était le soliste du concerto de Dvorak sous la direction de Tugan Sokiev. Non, et je me souviens très bien de ce concert, c'était magnifique. C'est vraiment un grand, grand violoncelliste de notre époque.
Oui, c'est un des grands de la scène classique actuelle. Oui, oui.
Absolument. Alors, Petr Popelka d'abord, il est tchèque, il est natif de Prague et il a longtemps occupé le poste de contrebasse solo adjoint de la Sächsische Staatskapelle de Dresde. Donc de la Staatskapelle de Dresde. Il est également pianiste et compositeur. Vous voyez, il a vraiment toutes les flèches à son arc. Et finalement, il a fini quand même par étudier la direction d'orchestre. Et il est tout de même le chef d'orchestre attitré de l'Orchestre de la Radio Norvégienne depuis août 2020. Et il est devenu en septembre 2022 directeur artistique de l'Orchestre symphonique de la Radio de Prague. C'est vraiment un chef qui a déjà une carrière bien remplie. Alors, au cours de la saison précédente, il a fait des débuts remarqués auprès de grands orchestres comme le Gewandhaus Orchestra, la Staatskapelle de Berlin, Bamberger Symphoniker et d'autres. En plus, il dirige à l'opéra, évidemment, et il a conduit notamment un opéra à Oslo, plusieurs opéras, et au Semper Oper de Dresde. Donc, vraiment, il a une très belle carrière. Et alors, Truls Mørk, lui, quant à lui, il est né à Bergen, en Norvège, et il est le fils d'une pianiste et d'un violoncelliste. Et finalement, il a choisi le violoncelle après s'être essayé, lui aussi, au piano. Et donc, c'est à 11 ans qu'il a rencontré son instrument, en quelque sorte. Et il se produit, évidemment, avec les plus grands orchestres dans le monde. Donc, il sera à Toulouse le soliste du concerto pour violoncelle et orchestre numéro 2 de Shostakovich, grand concerto qui est par Shostakovich dédié à Mstislav Rostropovitch, comme l'était déjà le premier concerto. Donc c'est vraiment une œuvre importante qu'il va jouer
en soliste. On n'entend pas si souvent que ça.
Non.
À Toulouse en tout cas. Ça va nous donner l'occasion d'écouter un premier extrait du programme, parce que cette pièce est au centre du programme de la soirée du 15 février. Premier extrait donc pour découvrir le son du violoncelle de Truls Mørk dans le deuxième mouvement Allegretto du concerto numéro 2 de Dmitri Shostakovich. Thank you. le deuxième mouvement Allegretto du concerto pour violoncelle numéro 2 de Chostakovitch dans une version dont Truls Mörck était le soliste. C'est donc la pièce centrale du programme du concert de l'Orchestre du Capitole le 15 février. Il y en a deux autres ce soir-là et l'on commence avec un autre compositeur slave. Le programme est entièrement slave de toute façon. C'est un tchèque, comme Petr Popelka, Antonín Dvořák, Serge.
Oui, oui, il s'agit de l'ouverture Carnaval, une ouverture très brillante qui constitue la partie centrale d'un triptyque d'ouverture composé pour le concert. Ce triptyque ayant pour titre « Nature, vie et amour ». Et donc là, c'est « vie » que l'on entendra et qui a pris le nom donc, d'ouverture carnaval. Et puis ensuite, en seconde partie du concert, nous aurons des extraits, choisis par le chef lui-même d'ailleurs, des suites numéro 1 et numéro 2 du ballet « Roméo et Juliette » de Prokofiev, grande pièce que l'on a souvent entendue à Toulouse, d'ailleurs sous la direction le plus souvent de Tougan Sokiev. Mais c'est toujours un grand plaisir d'écouter ces passages formidables de ce ballet fantastique. Hein. Alors, il faut rappeler quand même que ce ballet a été l'objet d'une commande du théâtre Kirov qui l'a refusé finalement. Ça ne lui a pas plu.
Eh oui, comme quoi parfois des œuvres qui ont été refusées ou des compositeurs qui ont avoir à un moment donné assez peu de succès, eh bien avec le temps deviennent de grands classiques.
Exactement, ce qui est arrivé donc à ce ballet Roméo et Juliette qui est connu du monde entier tous les publics.
Il y a notamment cette pièce qui a été utilisée pour la publicité, Danse des Chevaliers.
Et voilà, exactement.
J'imagine sera au programme.
Oh, certainement.
Ça m'étonnerait qu'elle ne le soit
qu'elle
pas.
Soit publiée, qu'elle soit oubliée.
Impossible, justement, de ne pas vous la proposer, cette célèbre danse des chevaliers extrait de la suite Roméo et Juliette de Serge Prokofiev. Il s'agit d'une version dirigée par Valéry Gergiev. La danse des chevaliers, extrait de la suite Roméo et Juliette de Serge Prokofiev dans une version du London Symphony Orchestra dirigée par Valéry Gergiev. C'est la dernière des trois œuvres au programme du concert que donne l'Orchestre National du Capitole ce jeudi 15 février à la Lohengrin à 20h sous la direction de Petr Popelka. Autre concert à noter sur vos agendas, celui de la saison des Clés de Saint-Pierre, lundi 19 février à 20h toujours à Saint-Pierre-des-Cuisines. Il va nous permettre de retrouver des musiciens de l'Orchestre du Capitole, 7 très précisément. Et le programme de cette soirée a été intitulé « Les vents insolites », ce qui donne déjà une première indication sur ce que l'on va entendre. Qui sont ces 7 musiciens et quelles œuvres vont-ils jouer, Serge ?
Alors, les musiciens en question, ils sont très connus de tous les mélomanes qui assistent au concert de l'Orchestre National du Capitole. Ce sont Sandrine Tilly à la flûte, Chi-Wen Cheng au hautbois, Florian Tardy à la clarinette, Guillaume Brun au basson, Benoît Huy au cor, Victor Guémy à la clarinette basse et Hugo Blacher à la trompette. Un beau choix d'instruments avant pour ces œuvres. Alors, il y a 4 œuvres et toutes de nationalités différentes. D'abord, un sextuor pour flûte au bois, clarinette, basson, cor et clarinette basse, de Jean Français, comme son nom l'indique, compositeur
français.
Très français, évidemment. Puis ensuite, du britannique Frank Bridge, il y a, alors ça s'appelle les divertimenti pour flûte au bois, clarinette et basson. Ça, c'est donc la deuxième pièce. La troisième pièce est de Leoš Janáček, comme son nom l'indique, est tchèque, donc lui aussi, avec un section pour flûte au bois, clarinette, cor, basson et clarinette basse. Et enfin, on termine par un septuor. Alors avec
là, ils seront au complet.
Ils seront au complet, puisque la trompette viendra se joindre aux autres instruments avant. Et c'est un septuor de Paul Hindemith, allemand. Donc vous voyez, quatre nationalités pour ce concert sur les musiques d'instruments avant.
Et sur les quatre œuvres, il y aura trois configurations différentes, puisque le Divertimenti de Frank Bridge, ils seront quatre. Oui. Il y aura deux sextuors, et puis donc le septuor pour conclure la soirée. Et on comprend qu'ils appelaient ça les vents insolites, parce qu'effectivement, le programme l'est beaucoup. On n'est pas prêt de revoir un programme comme ça, je pense, dans une soirée de concert.
La plupart des œuvres qui le constituent sont des œuvres qu'on n'entend pratiquement jamais.
Oui, franchement, peut-être le sextuor de Janáček, voilà, on l'a peut-être déjà entendu.
Oui, peut-être. Ouais.
Mais alors les trois autres, effectivement, on sent que tous ces musiciens qui sont habitués à jouer ensemble mais dans des pupitres différents avaient envie de se retrouver pour nous produire ce programme magnifique et vraiment qui mérite d'être découvert, beaucoup de découvertes au programme de ce concert Les Vents Insolites. Voici un extrait du sextuor pour flûte, hautbois, clarinette, cor, basson et clarinette basse de Leoš Janáček. Pour terminer cette présentation, c'est le troisième mouvement, Vivace. Le troisième mouvement, Vivace, du sextuor pour flûte, hautbois, clarinette, cor, basson et clarinette basse de Leoš Janáček. Alors cette œuvre a un autre nom, c'est le sextuor Mladí. Mladí qui veut dire jeunesse en tchèque. Et pourtant, Leoš Janáček l'a composé alors qu'il avait 70 ans. Allez comprendre, mais en tout cas, ce mouvement est effectivement très jeune, très prime sautier.
Ah oui, absolument, oui.
Voilà, donc c'est une des quatre œuvres au programme du concert, Les Vents Insolites, lundi 19 février à 20h. À l'Auditorium Saint-Pierre-des-Cuisines. Réservation et billetterie en ligne sur le site www.lesclésdesaintpierre.org. D'autre part, l'Orchestre National du Capitole est en concert jeudi 15 février à 20h à la Halle au Grain sous la direction de Petr Popelka et aux côtés du violoncelliste Truls Mörk qui va interpréter le concerto pour violoncelle numéro 2 de Shostakovich. Au programme également, Carnaval Ouverture d'Antonin Dvorak et la suite Roméo et Juliette de Serge Prokofiev. Les places sont à acheter et réservées sur le site www.lesclésdesaintpierre.org. www.onct.toulouse.fr. Et puis je rappelle enfin que la jeune mezzo-soprano toulousaine Juliette May est l'une des trois finalistes de la catégorie Révélation artiste lyrique de l'année des Victoires de la musique classique 2024. La cérémonie et l'annonce des lauréats a lieu jeudi 29 février à Montpellier. Elle est retransmise en direct et en prime time sur France 3. On croise les doigts pour Juliette et je vous invite à la soutenir devant votre poste de télévision ce soir-là. Tous mes remerciements à Serge Chosy qui a co-animé cette émission avec moi. Merci aussi à Christophe Aubry qui l'a réalisé. Podcast disponible et téléchargeable dès aujourd'hui, comme d'habitude, sur le site web de Radio Présence. Et merci enfin à vous tous qui nous écoutez chaque mardi et mercredi. Excellente semaine musicale à tous. À bientôt.